Donc aujourd'hui, nous sommes à la cinquième séance par rapport aux questions. Ensuite, vous aurez le témoignage dans la sixième séance. Et donc, c'est la relation à Dieu. Où en suis-je dans ma vie de prière? En fait, la question est liée un peu aux deux enseignements que je prends toujours le temps de faire. Parce que lorsque on est plus ou moins pratiquant, on va plus ou moins à la messe le dimanche, il y a les soucis de la vie et les rythmes de la vie font que nos moments de silence et de recueillement peuvent être parfois un peu loin. Et de nos jours, c'est souvent dans les épreuves qu'on se souvient un peu plus de Dieu, des moments plus joyeux de baptême dans la famille, ou de sachant que vous-même vous serez appelé à, parce que vous vous mariez religieusement dans la foi catholique, à emmener vos enfants. Vous engagez spécialement à baptiser vos enfants bébés et à les catéchiser. Sinon, en soi, il y aurait une incohérence à demander un mariage religieux. Mais le fait que nous soyons français ou chrétiens n'est pas la cause ultime de notre prière et de notre foi. Il faut que vous trouviez en vous-même et au-delà de ce que vous avez reçu, ou plus ou moins dans vos familles, la cause de votre prière, la cause de votre foi dans l'existence d'un être intelligent qui domine le monde. Cet être intelligent qui domine le monde, dans les premières séances que nous avions vues, eh bien, il peut faire peur. On peut vouloir l'apaiser par différents actes de superstition ou de crainte, de sacrifices d'animaux, de sacrifices divers et variés. Mais en 2017, le vrai Dieu a fait cesser depuis environ 1990 ans les sacrifices d'animaux, qui étaient les sacrifices les plus directs et les plus naturels pour l'homme. C'est-à-dire, en fait, lorsque l'homme vit au jour le jour et qu'il meurt à 30 ans, vous voyez, qu'est-ce qui le fait vivre et qu'est-ce qui est le plus important dans la vie quotidienne? C'est la culture, la chasse, l'élevage et le fait de rendre à Dieu les bonnes récoltes et les bons fruits de la terre et des bêtes. Et donc, lorsque le Christ est venu, il a fait cesser le sacrifice de l'agneau, qui était un agneau blanc qu'on sacrifiait à Pâques, dans le jour de souvenir du départ du peuple hébreu de la terre d'Égypte. Donc, Jésus est l'agneau de Dieu. Hein, dans la messe, on dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, notre vie de prière, elle est liée au fait qu'on croit qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, qui nous voit, qui nous regarde, qui connaît nos pensées. Et alors, est-ce que nous avons une religion naturelle simple, et voire frustre, où on a une relation un peu tendue avec cet invisible qui a une puissance d'introspection chez nous qui est un peu bizarre, enfin dérangeante. On se dit, quand je suis seul, je suis seul. Eh bien non. À tout moment, il vous regarde. À tout moment, il connaît vos pensées. Ce qui fait que ça peut être usant, même à la limite, de prier tout le temps, enfin, ou d'être conscient tout le temps de sa présence. Et il ne nous demande pas. Il ne nous demande pas d'avoir une prière totalement consciente à tout instant. Mais il nous demande, par contre, d'être conscient de sa présence et de sa paternité, mais aussi de sa proximité, parce que Jésus est son Fils et que, en s'unissant à la nature humaine, il prouve qu'il y a un amour particulier entre ce Créateur et les êtres humains. Et Jésus dit, mon Père s'occupe des oiseaux, mais il s'occupe plus de vous. Et, il s'occupe des plantes, mais il s'occupe plus de vous. Et donc, nous-mêmes, avec une mentalité de nos jours un peu écologiste, on oublierait quand même que l'être humain est plus important que les plantes et les animaux, hein, que la surface de la Terre. Parce que nous pouvons très bien, sans nuire à la nature humaine, vivre sans, avec une pollution diminuée, avec un respect de la nature, d'accord. Mais l'être humain passe avant le panda. Vous voyez, c'est un drame lorsqu'un panda meurt, mais c'est un plus grand drame que lorsqu'un être humain meurt. Hein, et donc, cette vie de prière va dépasser ce qu'on peut savoir par tradition ou par éducation, plus ou moins profonde religieusement, parce que nous sommes personnellement libres, à un moment donné, de prier ou de ne pas prier, d'entrer en contact avec Dieu ou pas. Vous avez des personnes qui n'ont pas eu de contact prolongé avec la foi chrétienne, mais qui entrent dans une église pour se recueillir. Vous avez des chrétiens qui, dans des pays non chrétiens, vont rentrer dans un lieu religieux pour se recueillir. Mais la difficulté, si vous voulez, de la prière humaine, c'est, elle n'a pas, enfin, nous on vous dit qu'il faut essayer de rechercher la vérité, c'est-à-dire, c'est pas un sentiment religieux universel, la foi ou la prière. C'est de vous dire que les hindous, lorsqu'ils sont en religion naturelle, ils demandent à Dieu de l'aide, mais s'ils le demandent à Ganesh, le dieu des éléphants, eh bien, on va leur dire, naturellement, votre demande d'aide est bonne, mais en fait, le vrai dieu n'est pas un éléphant, mais un père, un créateur, qui n'a pas de matière en lui, qui n'est pas ni le soleil, ni la lune, ni un animal, ni un arbre sacré, ni même la terre, Gaïa, mais un être vraiment personnel qui en lui-même a une relation qu'il a reproduite dans sa création, de père à fils, de parent à enfant. Et Dieu est plus maternel que la meilleure des mères. Et il est le plus paternel que le meilleur des pères. Même si en soi, de fait de sa puissance, de son autorité, il se donne le nom de père, c'est lui qui a créé les mamans. Donc il est encore plus fin que toutes les meilleures mamans du monde. Et ça, c'est parce que le plus ne peut pas venir du moins. Quand on a des qualités humaines, il faut bien comprendre qu'elles ne viennent ni du hasard et du temps. Et donc, votre prière personnelle, elle sera d'abord de vous poser la question de l'être qui vous fait vivre, qui vous fait respirer, qui vous permet de penser. Et donc, de lui donner quelques pensées à vous, pour lui offrir ses pensées, pour lui parler. Parler à Dieu, c'est prier. Et donc, ensuite, de mieux connaître ce Dieu dans la foi chrétienne par l'incarnation. Le fait que Jésus est à la fois un homme et à la fois Dieu lui-même. Ce qui est une grande preuve d'amour, hein, l'incarnation. Et je vous avais déjà dit, hein, pour les juifs et pour les musulmans, dans le monothéisme, l'incarnation est un scandale. Hein. Dieu Tout-Puissant ne peut pas venir comme ça... comment dire, jusqu'à nous, il reste dans sa toute-puissance. Mais la vie de prière se nourrit forcément aussi de ce qui a été transmis. Et qu'est-ce qui a été transmis pour vous? Eh bien, c'est que le temps de prière, non seulement individuel, mais de tous, c'était le dimanche à la messe. Et pour les juifs, c'était le samedi. Pour les musulmans, c'est le vendredi. Mais comme nous avons les mêmes racines bibliques, nous allons dire aux juifs, nous sommes de votre religion juive, mais nous reconnaissons votre Messie. Et comme il est ressuscité le dimanche, nous vous invitons à venir prier le dimanche plutôt que le samedi maintenant. Ensuite, aux musulmans, on va leur dire, d'ailleurs c'est pas très précis chez eux, hein, mais c'est le vendredi qui a un lieu, un jour plus particulier, mais on va leur dire, Mahomet n'a pas eu une vie sainte comme Jésus, il a contredit ce qu'a pu dire Jésus sur sa divinité et sur son sacrifice sur la croix, puisque les musulmans considèrent que Jésus n'est pas mort sur la croix, qu'il a été enlevé et qu'il reviendra à la fin des temps. C'est un mélange de judaïsme et de christianisme, l'islam, mais avec une sans continuité. C'est-à-dire, on dit, Jésus n'est qu'un prophète, il n'est pas Dieu et il n'est pas mort sur la croix. Donc il y a des contradictions assez fortes. Et donc on leur dit, eh bien, réfléchissez, voyez la vie de votre prophète, qui a eu une dizaine de femmes, dont la dernière avait 6 ans quand il s'est marié avec elle, et qu'il a honoré lorsqu'elle a été pubère à 9 ans, hein, parce qu'on est pubère assez tôt dans les pays d'Arabie, mais seulement, si vous voulez, il avait 50 ans, hein, et il a fait la guerre toute sa vie. Et donc, on accueille, si vous voulez, la religiosité musulmane, mais on leur dit que c'est en Jésus qu'on a le vrai message de Dieu. Vous voyez, tout ça pour vous dire que une religion universelle qui mélangera toutes les religions sera forcément d'une très grande incohérence. Parce qu'en plus, si vous voulez, l'implication est à chaque fois diverse. C'est à la limite le bouddhisme qui serait le plus universel, puisque on nie un dieu créateur, ça serait plutôt une énergie cosmique, mais du coup il n'y a pas d'intelligence créatrice. Pourtant ils ont des petits dieux, ils ont des petits esprits, dont on ne parle quasiment jamais en Occident, hein. Dans le bouddhisme il y a des petits dieux. Bouddha a été aidé par des esprits lorsqu'il est sorti du château de la grande demeure princière de ses parents, hein, qui ont rendu son chariot et son équipage, comment dire, silencieux, voilà. Mais il y a des entités. Voyez. Et donc, pour nous, Dieu est un père qui se donne entièrement à sa parole. Il l'appelle son fils et qui s'est fait homme. Il a choisi une femme pour venir. Il aurait pu venir par miracle d'un coup, non? Il a voulu être bébé d'une maman. Et tout ça, voyez-vous, jusqu'au don qu'il fait en se laissant arrêter et crucifier, et la promesse d'une vie, d'une victoire sur la mort par sa résurrection. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens de toute culture, de tout pays. Parce que, si vous voulez, ils y reconnaissent une vérité. Et donc, pour vous, à quel moment vous avez eu des moments de prière dans votre enfance, dans votre adolescence? Vous voyez, c'est le moment pour vous préparer au mariage, de vous ressourcer. D'où l'invitation à faire une retraite. Comment ma prière a-t-elle évolué? Pour moi, qu'est-ce que prier? Pour moi, qui est Dieu? Qui est le Christ? Quelle relation ai-je avec lui? Et jusqu'à maintenant, qu'a-t-il représenté dans ma vie? L'image même, la figure du Christ, par rapport à tout le foisonnement moderne et au souci de la vie qui est... Enfin, souci... à la vie occidentale qui est tellement prenante, tellement divertissante que finalement, vous voyez, c'est la, la foi ou la question de la foi est parfois un peu lointaine parce qu'on n'a pas énormément autant d'épreuves que des pays pauvres. Pour moi, qu'est-ce que croire? Et si Dieu n'existait pas, qu'est-ce que cela changerait dans ma vie? Quel serait le but de notre vie? Puisqu'il n'y aurait rien après la mort, vous voyez. On ne retrouverait ni nos parents, ni nos grands-parents, ni nos... Voilà. On meurt comme des moustiques. Voyez, voilà. À qui dois-je ma foi? Qui me l'a transmise? Comment se vivait la foi dans ma famille? Donc, tout ça, ce sont des questions qu'il faut vous poser. Et... dans les prochains mois, semaines, mois, pour un peu vous recentrer sur ce qui va vous arriver lorsque vous échangerez vos consentements dans une église. Est-ce que je nourris ma foi? Est-ce que, vous voyez, ici je passe le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli parce que c'est le film en version courte 4 heures, en version longue 6h30, par épisode de 30 minutes en fait, que vous pouvez voir sur YouTube, qui finalement est un évangile lu. Et c'est un péplum, donc il y a tellement moyen et tellement fin que ça vous permet de lire l'évangile sans effort. Mais d'un autre côté, il est bon aussi, parmi tous les livres qu'on peut lire, qu'à un moment donné quand même on ait lu au moins Saint Marc qui fait 16 chapitres. Vous voyez, où, voilà. Mais le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli est un des films qui est le plus parlant, parce que les acteurs sont extrêmement choisis. Et celui qui joue le rôle du Christ n'est ni illuminé, ni trop sévère, ni trop gentil. Ouais. Livre, conférence, groupe de prière, mais surtout, voyez-vous, c'est la pratique dominicale qui nous permet de connaître, d'entendre, et donc de nous bousculer par rapport au train de vie que nous menons. Voyez. Nous bousculer alors qu'on devrait se reposer le dimanche. Voyez. Quels sont éventuellement les enseignements dans l'Église que je ne comprends pas ou qui me posent des problèmes? Donc ça, dans nos entretiens individuels ensemble, il faudra ne pas hésiter à poser ces questions. Que ce soit le prêtre qui va célébrer votre mariage ou moi dans les trois rencontres que nous aurons, là, il faudra que vous puissiez poser des questions. Hein, le prêtre est là pour ça. Comment ma fiancée vit-il sa foi? Et suis-je prêt à respecter l'autre dans sa vie spirituelle? Oui. Notre relation à Dieu. Exprimons-nous notre foi de la même façon? Comment à la fois aimer son conjoint et aimer Dieu? Hein? Donc, il y a des personnes qui sont très pieuses et qui peuvent rendre. Il peut y avoir des tensions dans un couple, il faut bien savoir équilibrer cette piété. Qu'attendons-nous du sacrement de mariage? Et qu'attendons-nous de l'Église? Eh bien, en fait, vous voyez, la grâce particulière du mariage, c'est de vous aider à vous aimer dans cette proximité toute particulière qui est l'union conjugale. Et donc ce sont des grâces particulières de temps et de pardon, de compréhension, d'oubli aussi des offenses, pas seulement le pardon. Cela forme votre intelligence et votre volonté pour... ne pas avoir l'idée postmoderne de refaire sa vie. En fait, plus particulièrement lorsque l'enfant est là, mais même sans l'enfant, il y a le fait de partager sa vie. Voilà. Et donc, lorsque l'amour-passion est terminé, il faut faire place à un amour spirituel, concret et intelligent, en fait. À un moment donné, si vous voulez, les sentiments et l'affection doivent s'unir à l'intelligence et à la patience et aussi à la volonté de redécouvrir, de nos jours, on dirait redonner sa chance. Non, on doit leur redonner sa chance. C'est pas un don, c'est un devoir. Et donc le sacrement, c'est Dieu qui s'engage avec vous au nom de votre baptême. Mais si vous voulez, ça va, y a un véritable épanouissement hein, dans le mariage naturel et sacramentel. Les non-chrétiens se marient comme tout le monde. Ils ont un mariage naturel sacré. Nous, on se marie en demandant la grâce particulièrement de Jésus crucifié et ressuscité. Et ça nous engage plus, mais si vous voulez, deux musulmans, deux hindous se marient comme vous vous mariez et ont la même finalité. Ensuite, par la foi chrétienne, on a des grâces particulières par rapport à la dureté de vie, si vous voulez, d'une religion qui vient du désert, par exemple, et qui est encore marquée par la vie du désert. Si vous avez travaillé avec des Saoudiens ou avec des Qataris, vous voyez bien que certains sont vraiment... On sent qu'il y a une vie tribale qui n'est pas loin. Oui. Et l'indissolubilité du mariage a donné à la femme sa place dans le couple. Puisque, encore maintenant, vous voyez, toutes les religions permettent le divorce, sauf la foi chrétienne. C'est-à-dire, on ne peut pas, en fait, renvoyer sa femme. De nos jours, c'est la femme qui renvoie le mari aussi, mais voilà, ni l'un ni l'autre. Voulez-vous devenir saint en couple, c'est-à-dire être d'une particulière vertu, bonté et bienveillance, en surmontant votre caractère, vos colères, vos agacements, vos mépris? Un saint a du tempérament, hein, peut avoir même un fort tempérament, mais il est foncièrement bon. Vous avez des institutrices qui sont sévères et extérieurement sévères. Vous avez des institutrices qui sont douces et sévères. Mais l'important, c'est qu'elles soient justes. Comment la vie de nos saints préférés peut-elle nous aider? Est-ce que vous avez lu les vies de saints, de personnes qui ont prouvé justement une patience et une bonté particulière? Qu'est-ce que j'attends du jour de la célébration de notre mariage? Et vous dites, voilà, il y a un avant et il y a un après. Nous semblerait-il bon que notre couple puisse faire le point régulièrement sur les aspects positifs et négatifs de notre vie commune? C'est ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir au moins une fois par mois. Alors ça, c'est assez moderne. Parce que finalement, vous avez des couples qui vont bien, enfin qui vivent, voilà. Et cette idée d'une fois par mois de faire le point, finalement, parfois ça lève des problèmes qui n'en sont pas et ça en fait. Hein. Donc, c'est à vous de sentir les choses. Mais de nos jours, on vous demande même de prendre un rendez-vous sur votre agenda pour avoir un repas ensemble. Une fois par mois. Et si vous avez des enfants, à la grâce de Dieu, vous confiez vos enfants. Et vous discutez, vous partez manger ensemble. Et même, de confier des enfants à des grands-parents et de partir quelques jours en vacances ensemble. Et en même temps, voyez-vous, la famille et le jeu de la famille fait que on s'adaptera par rapport à ces trucs modernes qu'on essaye de placer parce qu'on a peur de la dispute, de la querelle, de la mésentente. On est pétrifié par le divorce de nos jours, hein, donc on est là. Comprenez bien que toutes ces séances et toutes ces questions sont un peu... On va s'aimer, ça va être bien, on a tout prévu, c'est bon, quelles questions j'ai pas posées, voilà. Nous sommes Laurent Telmon, voilà. Est-ce que je cherche dans la prière à avoir le même regard que le Père, Dieu le Père sur ma fiancée, sur mon fiancé, la même bonté, la même bienveillance? Quels sont les moyens que nous envisageons pour la progression spirituelle de notre couple? Est-ce que vous allez dire, mais voilà, plutôt que de faire du coaching, on va aller à la messe le dimanche. Et ça va nous apporter plus qu'un coach. prêtre, père spirituel, ami, famille, association, paroisse, retraite, mouvement chrétien. Là, vous allez voir avec le couple qui va venir. Ils vont arriver avec leur... ils ont tous les deux 55-65 ans. Et eux sont très impliqués dans la vie chrétienne, donc ils vont faire un témoignage. Hein. Mais ils vont aussi vous dire des choses qui sont vraiment universelles. Avons-nous déjà eu l'occasion de prier ensemble? Alors là, c'est la pudeur, de nos jours, on dira, oh ben, alors ça fait, j'ai pas eu cette occasion, tout ça, enfin, je suis pas d'un groupe de prière charismatique, hein. Enfin, ben oui, mais sans être dans un groupe de prière particulier, vous pouvez à un moment donné lire un Notre Père, un Je vous salue Marie ensemble, et pas seulement lorsque votre enfant a 42 fièvres. Ça peut être aussi pour la naissance de l'enfant, ça peut être aussi... Vous voyez, de toute façon, vous aurez à préparer le baptême ou autre. Voilà. Moi, j'ai une famille, leur cinquième enfant a été à deux doigts de mourir, n'est-ce pas? Donc, j'étais à l'hôpital. Le papa et la maman étaient dans l'expectative. C'était la première fois que j'arrivais dans des soins intensifs pour bébé. En cosmonaute, vers un petit bébé qui était l'attention de tout un système extraordinaire avec trois infirmières autour, tout ça, ça n'allait vraiment pas. Et voilà. Et donc là, on voit les parents qui sont très fervents. Voilà. Il y avait un vieux prêtre qui, pendant la guerre, il y avait les Stukas qui descendaient sur les trains et qui mitraillaient les trains. Ouais. Donc il y avait un train qui s'était arrêté, qui avait été mitraillé en partie, et tout le monde était sorti et s'était mis sous le train. Et lui, qui avait 10 ans, a dit le plafond, enfin le haut du train était devenu, enfin on avait l'impression que c'était devenu une chapelle, tout le monde priait sous le train. Et puis ils ont bien fait de prier parce qu'à un moment donné, on a entendu l'avion revenir avec sa sirène infernale. Et un des enfants a dit « Dans les bois, sortez, dans les bois, dans les bois !» Et tout le monde est parti du train. Et en fait, la mitrailleuse est tellement puissante sur le Stuka qu'il a pris en enfilade le train et ils ont vu les impacts des balles qui arrivaient jusqu'au balastre tout au long du train. Quoi. Donc il y aurait eu 10 morts. Quoi. Et donc ils ont été exaucés. Ils sont partis et l'avion a... comment dire, à rater son meurtre. Oui. Mais est-ce qu'il nous faut avoir des épreuves pour prier? Voudrions-nous faire un pas dans cette direction? En tout cas, donc, vous avez les adresses pour des retraites. Qu'est-ce qui nous aiderait pour prier? Avons-nous peur de nous dire nos divergences, nos désaccords sur la prière? En suis-je dans la pratique sacramentelle? L'Eucharistie le dimanche, sacrement de réconciliation, c'est-à-dire la confession. Et suis-je confirmé? Sachez que si vous n'avez pas eu la patience de nos jours, semble-t-il héroïque, n'est-ce pas, bon, d'attendre d'être marié pour vivre ensemble, la confession, qui demande une force d'âme, n'est-ce pas, vous pouvez vous confesser avant le mariage, pour mettre votre vie sous le regard de Dieu au moment de votre mariage. Et là, vous recevrez l'absolution, même si vous vous dites, oh, c'est peut-être pas plus mal d'avoir vécu ensemble avant, tout ça. Ben, le bon Dieu, lui, pour votre liberté et votre force d'âme, vous demande de ne pas le faire. Ensuite, dans le monde contemporain qui est le nôtre, vous pouvez justement être peu convaincu, mais de toute façon, sachez que dans la bonté de Dieu, l'important pour lui c'est votre futur, et donc votre futur c'est de vous engager en vérité. Et donc, le jour de votre mariage, faire une bonne confession auprès du prêtre célébrant, c'est essayer de lui demander qu'il ait le temps. Et de lui demander justement un peu. Alors, sachez que même si on ne s'est pas confessé depuis longtemps, un prêtre peut aider et ça peut se passer en 15-20 minutes sans problème. Et avec parce qu'on n'a pas, comment dire, à se souvenir de tout et c'est simplement le désir de reconnaître ses torts et pour l'avenir d'être attaché à la bonté et à la bienveillance. Ce qui fait que le sacrement de confirmation doit être aussi reçu ou demandé dans un acte sincère. Si vous n'êtes pas confirmé, il ne faut pas vous dépêcher de vous confirmer pour votre mariage. Il faut que ça soit aussi quelque chose de réfléchi. Le sacrement de confirmation étant une demande faite à l'union de Jésus et de son Père, à l'Esprit Saint, de renforcer sa présence, son action, son influence, sa lumière dans notre intelligence. Parce que Dieu n'est pas trois dieux. La Sainte Trinité, c'est l'unique Tout-Puissant, Créateur, mais qui est un Père qui aime un Fils. Et donc, à notre baptême, on a Dieu dans son amour éternel. Donc on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que Dieu est un, en fait. Mais il y a trois relations en Dieu, de Père à Fils, de Fils à Père, et dans l'amour. Alors, vous allez me dire, alors après le baptême, qui nous donne cette volonté du Père de rétablir la justice en recevant le don gratuit de Jésus pour ses frères et sœurs. Je meurs à leur place. J'offre mon innocence pour eux. C'est le baptême. Plus respirer et respirer à nouveau. Mourir et ressusciter à cause de l'eau. Eh bien là, dans la confirmation, c'est de l'huile d'olive qu'on met sur votre front. Alors qu'est-ce que ça signifie par rapport au baptême qui est le sacrement des sacrements, le signe le plus manifeste d'un don qu'on reçoit de Dieu? Eh bien, la confirmation, c'est une demande insistante de l'âme à ce que la lumière de Dieu pénètre profondément. Et le signe de ce sacrement, c'est l'huile qui pénètre dans la peau, qui pénètre dans le corps jusqu'à l'âme. Et donc c'est d'insister sur la volonté d'avoir cet amour du Père et du Fils et dans nos actes. C'est pour ça que dans le mariage, la confirmation est un sacrement important, parce que il va vous permettre de discerner dans les mesquineries de la vie quotidienne ou au contraire dans les belles actions, mes petites actions de la vie quotidienne. C'est fin, c'est ciselé. Avoir le cœur large. La mesquinerie, c'est de relever ce qui ne va pas, systématiquement. D'ailleurs, on ne le dit pas forcément. Mais quand on se dessèche un peu, hein, tiens, il n'a pas fait ça. Tiens, il est comme ça. Tiens, il est machin. Voilà, il n'a pas. Elle peut fumer, mais elle pourrait faire ci par rapport à ses cigarettes, par rapport à. Voilà. Elle pourrait mettre un dispositif pour la fumée. Ça, c'est parce que on a combien de fumeurs ici? Une, deux, voilà. Trois, voilà. Donc il y a, mais c'est des petites choses, mais c'est aussi, un jour j'ai une épouse, elle dit, mais j'en peux plus, 2 ans de mariage, j'en peux plus, non, vous inquiétez pas, ils en sont à 8 et c'est fini. Mais elle dit, mais il met ses chemises par terre. Alors j'ai eu envie de lui dire, pourquoi vous ne saviez pas qu'un homme peut laisser ses chemises par terre? Vous n'avez pas eu de frère ou je sais pas quoi. Bon. Mais vous voyez, quand on est à faire ce genre de remarques à un prêtre, c'est qu'il y a d'autres choses aussi. Et donc voilà. Oui, mais c'est des petites choses. Et la force d'âme est dans les petites choses. Et donc, qu'on fasse une prière particulière, de demander à l'Esprit Saint, à l'amour du Père et du Fils, de nous consolider, de nous renforcer dans les petites choses, et du coup dans les grandes choses, eh bien, c'est un sacrement à part entière. C'est le sacrement de la confirmation. Oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite à vous poser cette question pour l'avenir. Pour l'avenir. Voilà. Donc, la confession elle-même, vous voyez, quand on est marié religieusement et qu'on peut légitimement vivre ensemble puisqu'on s'est promis l'un à l'autre, la confession sera le fait de reconnaître qu'on a manqué des messes le dimanche alors que l'expérience humaine nous dit que la religiosité porte l'âme et la société. Vous voyez, une des causes des tensions sociales actuelles, c'est justement que la laïcité à la française est arrivée à une sorte d'éloignement du fait religieux, de tracasserie du fait religieux. Quand on en arrive à mettre en cause le fait de mettre des crèches dans l'espace public, c'est fatigant. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Rien, qu'on se pose jamais la... Vous avez des pays, mais c'est pas, même pas pensable de dire que Dieu n'existe pas. Et nous, parce que nous avons toute une tradition de raison un peu orgueilleuse, n'est-ce pas? On veut remettre en cause toute manifestation de piété. J'ai envie de leur faire lire justement Descartes. Descartes est croyant, profondément croyant. Parce que lui, il n'y a pas d'effet sans cause, hein, même si il apporte, enfin il apporte. Il va avoir une philosophie où la raison va un peu se couper de certaines évidences, et ce qui est embêtant, c'est pas je pense donc je suis. La vraie philosophie, c'est je suis donc je pense. Vous voyez, c'est pas notre pensée qui fait notre existence. C'est un signe de notre existence que l'on pense. Et Descartes, après d'autres philosophes du XIIIe siècle, commence à la philosophie ce qu'on appelle idéaliste. Et oui, mais c'est pas tout ce que je pense qui est réel, voyez, parce qu'on peut avoir beaucoup beaucoup d'imagination. Mais même avec cette philosophie-là, Descartes, lui, il garde de la philosophie naturelle, il ne peut pas y avoir d'effet sans cause. Je vois des êtres et ils n'ont pas été conçus par hasard. Descartes, pour lui, l'existence de Dieu est une évidence. Mais ça ne nous donne pas de l'affection vis-à-vis de Dieu. C'est ça le problème. Est-ce que Dieu nous aime? Qu'on se dise qu'il y a une entité qui est existante, c'est une chose, mais est-ce qu'il est personnel? Est-ce qu'il nous aime? Est-ce qu'il y a une relation avec nous? Vous voyez, Sainte Bernadette, elle avait sa relation avec dans la prière. Et bien, à un moment donné, le ciel l'a choisie parmi plein de jeunes filles pour avoir une relation personnelle. Et puis, elle est morte à l'âge de 33, 35 ans. Et elle a un peu souffert de la jalousie des autres religieuses. Elle est entrée en religion, hein. Mais voilà. Il n'empêche qu'elle n'a jamais renié le fait qu'elle ait parlé face à face avec Marie. Mais elle, Elle voulait surtout pas en parler puisque les autres allaient lui reprocher d'être orgueilleuse dans le fait d'en parler. Mais elle n'a jamais renié, hein, son face-à-face avec Marie. Et, mais nous, avons-nous une relation personnelle avec l'invisible? Et c'est donc un des enjeux aussi de cette préparation au mariage, de vous remettre dans cette perspective.